Romains 12 nous dit ceci. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On parlait tout à l'heure, avant le culte avec un frère, de la manière dont le monde, le diable, influence notre propre pensée et de la manière dont on doit être vigilant. Je disais à ce frère, même moi des fois, je me surprends à dire, mais non, ça c'est pas selon la pensée de Dieu, et il faut se reprendre, et on a besoin d'être transformé, d'être renouvelé dans notre intelligence spirituelle. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres, rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, vivez en plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartienne la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Sois vainqueur du mal par le bien. On trouve beaucoup de prédications, d'enseignements sur la victoire, être victorieux. Alors on est victorieux sur le monde spirituel, on est victorieux sur la chair, on est victorieux sur les puissances infernales, etc., etc. Et ces enseignements ne sont pas mauvais en soi. Christ nous a ouvert la porte du triomphe et de la victoire en lui. Mais je pense que vous, comme moi, nous sommes confrontés chaque jour à ces réalités spirituelles concernant bien ce mal qui est là, qui est ambiant, qui est en nous, qui est autour de nous. Et qui nous porte, bien sûr, qui voudrait, eh bien, nous conduire encore dans des pensées, dans des paroles, dans des attitudes, dans des comportements, eh bien, là aussi, qui pourrait nous déstabiliser. Mais ici, Paul nous rappelle quelque chose d'important. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Je crois que c'est un défi quotidien. Je le répète, que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos comportements, on y est tous confrontés quotidiennement. Mais il y a ici une parole pour nous, sois vainqueur du mal par le bien. Et bien sûr, on peut se poser la question, mais Seigneur, comment? Comment pratiquement on fait? Et j'aime bien ici l'apôtre Paul qui est très pratique et très concret. Peut-être que vous avez sur votre Bible, dans le chapitre 12, un titre. Je ne sais pas si vous avez un titre. Moi, j'ai de nouveaux comportements. Je ne sais pas si vous avez encore une Bible papier, en tout cas, d'autres ont peut-être un autre titre, mais ici, bien, Paul veut encourager les chrétiens de Rome à être pratiques, à être concrets dans leur quotidien et à vaincre le mal par le bien. Et pour cela, il nous laisse trois clés dans ce chapitre. Il nous parle de dons nouveaux, des dons nouveaux que nous avons reçus pour vaincre le mal par le bien. Il nous donne une mentalité nouvelle, il est question d'une mentalité nouvelle, un état d'esprit nouveau. Et puis, il est question ensuite, de pratiques nouvelles, de nouvelles pratiques. Il nous parle de dons, il nous parle d'un état d'esprit, et puis il nous parle également de pratiques nouvelles. Nous ne sommes plus plutôt du monde, nous le savons, mais on y est encore, et qu'on le veuille ou pas, on est formé comme ça, on est tous comme des éponges. On est tous influençables, et on peut donner également, bien sûr, de l'influence. C'est ainsi que nous sommes conçus, bien entendu. Mais ce matin, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, que nous sommes en Christ, et si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, on va parler des dons nouveaux. On va parler des dons nouveaux. Ce sont les premiers versets qui nous en parlent. Des dons nouveaux, Romains 12, 6 à 8, nous présentent ici, sept dons. Alors, la parole de Dieu n'est pas exhaustive sur les dons qu'il nous donne, mais ce matin, rappelons-nous que Dieu a donné à chacun des dons, des talents. Appelez ça comme vous voudrez, des cadeaux. C'est comme dans une naissance, dans une famille, c'est en général une source de joie. Et puis, c'est toujours le moment de faire une fête de famille. On invite la famille, on invite des proches, des amis, des voisins peut-être. Et puis là, c'est le temps d'amener des cadeaux. Alors, des layettes, des poussettes, des jouets, des accessoires, etc. Moi, je me rappelle que pour ma naissance, je l'ai su qu'à notre mariage. C'est que mon parrain m'avait ouvert un compte. Voilà. Ça, je ne savais pas. Et le jour du mariage, il a cassé la cagnotte, et donc il nous a donné cet argent pour le mariage. C'était extraordinaire, c'était un cadeau dont je me doutais pas. C'était un cadeau secret, mais il avait ouvert un compte, et régulièrement, il mettait de l'argent dessus. Et avec Dieu, c'est pareil. C'est comme s'il y avait un compte dans le ciel qui était ouvert à partir du moment où je donne ma vie, je passe par la nouvelle naissance, et des dons nous sont donnés. Alors bien sûr, on a aussi des dons naturels, il y a des dons spirituels, etc. Mais toute cette panoplie de dons, nous sert désormais à vaincre le mal par le bien. À vaincre le mal par le bien. Ici, il y en a quelques-uns qui nous sont donnés, ce sont comme des outils, ce sont des moyens que nous allons utiliser, dans différentes situations, à différents moments, pour que nous puissions, ce matin, vaincre le mal par le bien. Alors, les outils, les dons, on les utilise pour construire, on les utilise pour réparer. Si vous êtes bricoleur, si vous faites du jardin, on a tous besoin d'outils. Ils sont différents en fonction de la saison, ils sont différents en fonction du travail qu'on va faire. Et puis, ils sont complémentaires, les uns les autres, ces outils. C'est donc que Dieu nous donne. Alors, ici, il y en a quelques-uns. On peut parler du don de prophétie. Et dans 1 Corinthiens 14, 3, il nous est rappelé d'aspirer au don de prophétie. Là aussi, pour exhorter, le don de prophétie exhorte, encourage l'assemblée. Et c'est un don que Dieu veut nous donner. Et on veut évoluer, on veut grandir aussi dans l'utilisation de ce don. Le don de servir. Le don de servir. Il est question ici de servir les saints, l'Église de Jésus-Christ. C'est dans Hébreux 6, 10, il en est question. Il y a également le don d'enseigner. Dans Éphésiens 4, 11, il nous est rappelé, les enseignants, les docteurs. Et puis, le don d'encourager. Là, je vous pose une question. Est-ce que vous vous rappelez dans la Bible qui s'appelle le fils d'exhortation, le fils d'encouragement? C'est Barnabas, effectivement. Barnabas, qui va encourager, qui va exhorter. Et c'est un don aussi, que certains frères et sœurs ont reçu. Il y a des frères et sœurs, vous les voyez, ils vous exhortent déjà. Ils vous encouragent déjà. Ils ont déjà le sourire, etc. Puis il y a toujours une parole positive, un encouragement. Ils ont reçu ce don et puis ils l'exercent. Il y a aussi le don de donner, le don de distribuer. On se souvient dans Actes 6, lorsque il va être établi les premiers diacres, hein, eh bien, il est question là aussi de ces hommes qui vont donner, qui vont partager. Et puis, il y a le don de présider. Hein, donc, que ce soit une réunion, que ce soit une école du dimanche, que ce soit quelque chose, peu importe, une assemblée, le don de présider. Il est question de le faire, bien sûr, avec zèle. Et puis, le dernier, c'est un don de bienveillance, un don de miséricorde, d'accorder là aussi la grâce et la miséricorde de notre Seigneur. Tout cela, et je le rappelle, ce matin n'est pas exhaustif, il n'y en a pas que sept. Mais Dieu est beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut penser, Dieu est beaucoup plus large, beaucoup plus haut que ce qu'on peut penser. Mais ce matin, il nous donne ses dons pour vaincre le mal par le bien, afin que nous puissions ainsi exercer ses dons pour renouveler, pour fortifier, pour encourager ceux qui en ont besoin. Et puis on se rappelle que ces dons, ils sont complémentaires. Hein, dans une boîte à outils, bien, il n'y a pas que des tournevis cruciformes, il n'y a pas que des marteaux, il y a d'autres choses. Et dans une trousse de couture, alors j'y connais rien du tout, il y a certainement des aiguilles et du fil, hein, mais il y a certainement d'autres choses aussi, des fils de différents diamètres, etc. Il n'y a pas que ça, afin que les dons qui sont complémentaires puissent servir le Seigneur Jésus. Et puis littéralement, eh bien, il nous est dit que le don et le mot grâce, ils ont la même racine. Hein, les dons et grâce, ils ont la même racine. Ça veut dire que lorsque j'exerce un don, j'exerce une grâce. C'est exactement la même racine. J'exerce un cadeau. J'exerce quelque chose que je n'ai pas reçu. Et voilà pourquoi. Ici, il est dit que finalement, que nous n'ayons pas de nous une trop haute opinion, parce que celui qui préside le fasse avec zèle, mais il le fait parce qu'il a reçu un don, il n'y est pour rien. Hein, celui ou celle qui a des dons musicaux, une belle voix, elle n'y est pour rien. C'est Dieu qui lui a donné. Et finalement, bien, on exerce avec beaucoup de modestie, d'humilité, ce que Dieu nous a donné. Mais c'est un don, c'est un cadeau, c'est une grâce. Et ce matin, on veut pas mettre ce cadeau, cette grâce, bien, dans la terre, comme dans la parabole des talents. À imaginer que, à votre anniversaire ou à d'autres occasions, vous receviez des cadeaux, et puis vous dites à ceux qui vous les ont offerts, bah non, moi j'en veux pas, reprenez vos cadeaux, j'en veux pas. Ce serait quand même frustrant, au moins, hein, pour ceux décevants et attristants. Et ce matin, chacun d'entre nous, nous avons reçu des dons afin que nous puissions les mettre. Mais le don, le cadeau, la grâce, c'est le même mot. C'est la même racine. On n'y est pour rien. On n'y est pour rien. Et pourtant, parce que nous y sommes pour rien, eh bien, nous voulons les accorder. Nous voulons les donner à chaque fois que l'on peut. Eh bien, rappelons-nous que ces dons, ces cadeaux sont des moyens que Dieu nous donne pour vaincre le mal par le bien. Pour vaincre le mal par le bien. Des fois, on n'a pas envie. On se sent indigne. On se dit, mais je ne peux pas, dans ce que je vis, communiquer quelque chose. Et parfois, on est surpris. On est surpris de la manière dont Dieu se sert de nous, alors qu'on ne va pas très bien. Et pourtant, parce qu'on va donner, parce qu'on va accorder un don, parce que quelque chose va venir de nous, eh bien, on va bénir, on va encourager. Et la bénédiction qu'on va apporter, finalement, va revenir vers nous. Et puis, ça va nous encourager à persévérer et à être renouvelés. Des dons nouveaux. Voilà comment le Seigneur, ce matin, veut nous aider déjà à vaincre le mal par le bien. Et puis, la deuxième pensée, eh bien, avec les dons, il y a aussi l'esprit nouveau. Hein, c'est ce qui est développé, je le lis rapidement, hein, Romains 12, 9, verset 10. « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, rivalisez d'estime réciproque. » Cette pensée, elle est extraordinaire. Quand je vois cette pensée, je vois je sais pas si ça se fait encore dans certaines entreprises, mais il fut un temps dans certaines entreprises, notamment de restauration rapide, il y avait la pyramide mensuelle du meilleur ouvrier. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, hein, voilà. Donc il y avait la photo, etc. Et puis il y avait la pyramide du meilleur ouvrier qui était là. Alors, ça peut stimuler, hein. Mais parfois aussi, ça peut susciter quelques jalousies, et puis on veut être le premier à tout prix, et puis marcher sur les autres, voilà, et arriver là-haut, à la pyramide. Mais là, il est dit de rivaliser, donc d'estime réciproque. C'est extraordinaire, ça, hein, dans l'esprit nouveau. Et si les dons, les outils que Dieu nous donne, eh bien, sont bien réels, ils ne suffisent pas. Ils doivent être utilisés dans un esprit nouveau, avec une mentalité nouvelle. Les deux sont liés, le don et puis l'état d'esprit, le don et la mentalité. Les deux sont inséparables. Le don sans la mentalité. Imaginez hein, que j'ai reçu un don extraordinaire, mais je n'ai pas l'état d'esprit. Eh bien, ça peut être bien sûr mal utilisé. Ça peut même devenir dangereux, voire une source d'orgueil. On connaît hein, des exemples autour de nous où des frères et sœurs ont reçu des dons extraordinaires, alors que ce soit souvent c'est dans les dons de guérison, de miracles, voilà. Et nous on aspire, on dit Seigneur, là aussi, j'aimerais exercer ces dons. Et puis malheureusement, bien ces frères et sœurs ont dévié, ils ont été remplis d'orgueil. L'état d'esprit n'était plus là. Et ce qui peut être incompréhensible, même parfois paradoxal, c'est que Dieu continue à se servir de ses dons quand ils sont reçus dans la foi par quelqu'un qui ne connaît pas l'état d'esprit de cette personne. Et Dieu est capable, là aussi, de bénir cette personne au travers de quelqu'un qui a un mauvais état d'esprit. C'est à vous de comprendre les choses. Et alors, on boucle la boucle. Cette personne qui a un mauvais état d'esprit se dit, ben, Dieu est encore avec moi, puisqu'il continue à bénir. Et je veux dire, on tourne en rond. C'est la grâce de Dieu. Et puis, il y a la mentalité sans don est limitée. J'ai un bon état d'esprit, mais j'ai pas les dons. Ça demeure inefficace. J'ai la bonne volonté, etc. Mais j'ai pas l'outil adéquat. Alors, je vais pouvoir, bien sûr. Mais il faut les deux. Il faut l'état d'esprit. Et puis, il faut, bien sûr, les dons. Pour définir l'esprit nouveau, eh bien, Paul, on l'a lu ensemble, utilise des termes comme amour, comme bien, comme affection, comme amour fraternel, comme estime. Et là aussi, c'est dans cette nouvelle mentalité, eh bien, qu'on va vaincre le mal par le bien. Littéralement, il y a une expression qui m'a interpellé. Il est dit ceci, attachez-vous, donc c'est voilà, ferme, attachez-vous au bien. Hein, littéralement, ça veut dire soyez unis au bien. Faites corps avec lui. Ne faites plus qu'un. Soyez collés à la superglue, hein, on va dire ça comme ça. Soyez inséparables. Voilà, soyez inséparables. Faites corps avec lui. Soyez attachés au bien. Un jour, quelqu'un m'a dit. Finalement, par rapport à cette personne, ça va beaucoup mieux. Hein. J'ai plus d'animosité, j'ai plus de colère, tout va bien. Bon, il y a juste de temps en temps, je dis un peu de mal sur lui, quoi. Hein. J'ai compris que il y avait encore un petit peu de travail à faire. Hein. J'ai compris que là aussi, bien, il y avait encore des choses à travailler, parce que bien, on est tous ainsi. Hein. Il y a encore parfois des choses qui nous laissent un petit peu amers. En tout cas. Il y a un chant que nos sœurs auraient pu chanter, hein. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Hein, mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je crois que j'avais mis Colossiens 3:2 et puis Ézéchiel 36, hein, il me semble. Colossiens 3:2. Et puis, on va lire Ézéchiel 36:24. Affectionnez-vous, hein, attachez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Un esprit nouveau, hein, l'esprit de Dieu qui vient d'en haut. Et puis on va lire Ézéchiel 36, hein, verset. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et puis la suite, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Hein, le verset central de ce passage, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous, bien, va développer, bien sûr, le fruit d'esprit, va développer la semence de la parole de Dieu qui est en nous, hein, et faire germer, bien sûr, et on connaît Galates 5, 22, hein, où il est question, bien, du fruit d'esprit. Le fruit d'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et ce matin, eh bien, nous voulons vaincre le mal par le bien. Hein, quand peut-être si je peux revenir sur Galates 5, 22, imaginez, je sais pas moi, allez, je prends mon exemple, que quelqu'un vous fasse une queue de poisson en revenant du culte là. Oh Seigneur, on a eu un bon culte, etc. Hein, ah, voilà, une queue de poisson devant nous sur l'autoroute, voilà. Hein, alors, on oublie le bon culte, on oublie la prédication du pasteur, j'oublie ma propre prédication. Hein, et là, ça peut partir très très rapide. Ça peut être très très rapide dans mon cœur, etc. Hein, je vais oublier le fruit d'esprit, l'esprit nouveau, etc. Et là, il y a quand même quelques éléments qui peuvent m'aider. Hein, bon, l'amour, un peu de patience, la tempérance. Voilà. Hein, on va prendre la tempérance pour moi. Seigneur, allez, bénis-le quand même. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Hein, mais je suis comme ça. Hein, puis vous êtes comme ça aussi. On a besoin là aussi que l'esprit nouveau, comme on l'a lu tout à l'heure, soit renouvelé chaque jour. Ça peut partir tellement, tellement vite, tellement vite. Et après, on est malheureux. Après, on regrette, etc. Hein, mais que Dieu nous aide. Il y a les dons, et puis bien sûr l'esprit nouveau. Et puis on va terminer avec bien de nouvelles pratiques. Hein, j'ai fait une équation, je ne sais pas si ils l'ont mise. Hein, en tout cas voilà, là-haut, don nouveau plus esprit nouveau égale pratique nouvelle. Bon, c'est simple hein, comme équation. Hein. Don, vous avez fait des mathématiques, vous avez à lire. Ouais, ben autrement, vous consultez un ophtalmo, hein. Non, je pense qu'ils vont pouvoir grossir. En tout cas, voilà. Il y a le don plus l'esprit qui nous donne des pratiques nouvelles. Alors, juste une petite introduction pour se remettre quand même dans le contexte, parce que, bon, on se dit, Paul, c'est bien gentil, hein, mais il faut quand même se rappeler dans quel contexte Paul écrit. Il écrit aux chrétiens de Rome. Et Rome, à l'époque, c'est quand même une ville d'un million d'habitants. Hein, c'est pas Saint-Louis. C'est un million déjà d'habitants. Sur un million d'habitants, il y a 330 000 esclaves environ. Il y a un esclave, hein, et puis il y a deux hommes libres, etc. On est, vous savez, sous quel empereur on est, je l'ai mis là. On est sous Néron. Hein, et vous connaissez un petit peu l'histoire de Néron. Là, Paul l'écrit vers 57. Là, on est en 50. Mais dès 50, pardon, les Juifs de Rome sont déjà expulsés, sont frappés d'expulsion. Et puis, on commence, bien sûr, à avoir un œil un petit peu critique sur les chrétiens. À partir de ce moment, de cette époque, les empereurs vont instaurer le culte impérial. On laisse les autres cultes, mais on exige eh bien que on adore l'empereur, qu'on le considère comme un dieu. Imaginez un petit peu, que les choses arrivent. Chaque jour à Rome, il y a des rites païens, des rites religieux, je veux dire à tous les coins de rue pratiquement. Hein, et le panthéon des dieux romains est assez quand même fourni. J'en ai quelques-uns. Vous allez vous souvenir de vos cours d'histoire. Jupiter, Neptune, Minerve. J'ai Diane, j'ai Vénus, Mars, et puis il y a tous les autres. Hein, il y a tous les autres. Et finalement, les chrétiens sont déjà confrontés au quotidien à toutes sortes de pratiques païennes, mystiques, religieuses, qui vont à l'encontre des dons qu'ils ont reçus et de l'Esprit de Dieu qu'ils ont reçu. Je disais hein, tout à l'heure à un frère que cette semaine, le 21 juin, donc, c'est à Bâle ou à Berne, enfin, c'est en Suisse, il y a eu un rapport de l'ONU concernant la tolérance, la bienveillance que nous devons avoir les uns envers les autres. Alors, voilà. Et donc, dans ce rapport, il est préconisé, désormais, de restreindre la liberté religieuse, d'imposer, de vérifier la doctrine, et puis surtout, le point crucial, et on va y arriver un jour ou l'autre, c'est d'extirper la notion de péché. On ne veut plus de péché. Voilà, le péché, ça n'existe plus. Chacun peut être comme il veut, chacun peut aimer comme il veut, chacun peut faire ce qu'il veut, etc., avec qui il veut, quand il veut, à combien il veut, etc. Et là, donc, alors pour l'instant, donc l'Alliance évangélique est montée au créneau, etc., pour l'instant, il n'y a pas encore de notion juridique, d'accord ? Mais ça va arriver. Ça va arriver, hein, on commence par là tout doucement, mais voilà, ce que l'on veut, en tout cas l'état d'esprit du monde, c'est extirper la notion de péché, voilà, surtout pas, et on y arrive, et les chrétiens de Rome vivent dans une ambiance spirituelle ainsi, et voilà pourquoi Paul va les encourager, les enseigner à avoir des pratiques nouvelles. Avoir des pratiques nouvelles, afin de vaincre le mal par le bien. Je dis, on est comme des éponges, quoi qu'on veuille. On est comme des éponges, et on est influencés, on est influençables. Et il nous faut nous rappeler ce matin, nous encourager. Nous avons des pratiques nouvelles. Parce qu'on a reçu des dons nouveaux, parce qu'on a reçu un esprit nouveau. Hein, Romains 12, 11, et puis Éphésiens 6, 5. Des pratiques personnelles, d'abord, qui me concernent. Romains 12, 11 et Éphésiens 6, 5 nous parlent d'abord, eh bien, du zèle. Elle nous parle des chaussures que donne le zèle de l'évangile pour amener l'évangile de paix. Ayez du zèle. Là aussi, nous voulons être renouvelés dans notre zèle pour le service pour Dieu, pour notre communion avec lui. On est surchargé, on court à droite et à gauche. Parfois, on a été déçu par le témoignage qu'on a rendu. Personne ne s'est tourné vers le Seigneur, etc. Et il peut y avoir des moments où là aussi où notre zèle baisse. Voilà. Mais Paul va encourager ces chrétiens de Rome dans cette situation à être renouvelés dans ce zèle, à partager cette bonne nouvelle. Même s'il y a la persécution, même s'il y a des critiques, même s'il y a du rejet, du mépris. Paul va encourager dans cette pratique personnelle. Romains 12, verset 12, on en a parlé ce matin, on l'a chanté. Réjouissez-vous, hein, et puis soyez patients. Hein, réjouissez-vous et soyez patients. Paul fait allusion à cette persécution qui commence à monter à Rome. Et puis qui aura son point d'orgue, vous le savez, hein, donc en 64, lors de l'incendie de Rome. Là aussi, pendant 10 jours, Rome va brûler. Ce sont des milliers de personnes qui vont mourir. On dit qu'il y aura 200 000 sans-abri, etc. Et le coupable est tout trouvé. Hein, Néron va le désigner. Ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ont mis le feu à Rome. Et là, il va avoir une persécution, j'allais dire, terrible. Et Paul prépare, là aussi, hein, les frères et sœurs, eh bien, soyez patients dans l'épreuve. Jacques, qui subira aussi la persécution, dira ceci. Alors, on le lit, hein. On peut être le comprendre comme ça quand tout va bien, mais il dit, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Il faut quand même le vivre, hein. Il faut le vivre. On le lit facilement, hein, mais considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Persévérer dans la prière, encore une pratique personnelle, une pratique nouvelle. Avant de connaître Jésus, je ne sais pas si vous priez, hein, peut-être que vous aviez une certaine prière, etc. Mais il dit, là aussi, la prière c'est quand même le fil rouge de notre communion avec Dieu. Hein, c'est le lien qui nous attache, qui nous rappelle, qui nous rattache, etc. au Seigneur. Et là, il sait très bien que ces chrétiens d'Europe ont besoin de persévérer. C'est pas toujours facile. La prière dans un tel contexte, on peut être bousculé, on peut être dérangé, on peut être malmené. Alors, Paul va leur dire, eh bien, persévérer dans la prière, hein, prier en tout temps, en toutes circonstances, pour tous les hommes. Voilà ce que Paul rappellera souvent. Et que Dieu nous aide ce matin à être renouvelé aussi notre communion avec Dieu dans la prière. Pour moi, la prière, c'est pas une question de quantité, hein, c'est une question de relation, de profondeur. On peut prier en voiture, on peut prier au travail, on peut prier, bien sûr, qu'il est bon, je pense aussi, de mettre parfois des temps à part, si on peut, dans nos journées, les programmer. Mais la prière, c'est un état d'esprit, c'est la respiration de l'âme. et de persévérant. Hein. Il y a un paradoxe, moi je le vis, vous pouvez le vivre aussi, hein. Bien qu'accessible à chacun, très facile, souvent la prière est négligée. Hein. On se dit, bon, Seigneur, écoute, je vais m'en sortir, ou on ne pense pas, ou on demande conseil d'abord. Et tout cela est bien, hein, mais que Dieu aussi nous renouvelle ce matin dans la prière, persévérer dans la prière. Et puis il y a la deuxième phase, hein, dans ces pratiques nouvelles, il y a les pratiques relationnelles, d'abord personnelles, et puis il y a les pratiques relationnelles, c'est-à-dire envers les croyants, et puis envers les non-croyants, hein, les uns envers les autres. Alors, être solidaire, hein, de nos frères et sœurs, et Paul sait de quoi il parle. Il se souvient que dans tous ses voyages missionnaires, eh bien, il a été accueilli, il a été encouragé, il a été secouru, il a été aidé. L'Église, et à l'époque, il n'y avait pas le SMS, le fax est dépassé, hein, mais quoique, je ne sais pas si certaines entreprises utilisent encore le fax. Bon, on prévoit une campagne d'évangélisation, alors il faut prévoir la chambre, le repas, je ne mange pas ça, je préfère ceci, etc. Voilà. Mais à l'époque, eh bien, on se rendait sur place, et puis en fonction d'eux, eh bien, on était accueillis. On était ainsi accueillis. Et Paul se souvient qu'il y a toujours, il y a eu un accueil bienveillant de la part de l'Église, et puis il se souvient très bien de ce premier accueil. De ce premier accueil par un certain Ananias. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein. Moi, bon, c'est ma pensée, je vous le dis souvent, mais je suis allé presque convaincu que sur sa liste, parce que Paul, il avait une liste, hein, des chrétiens à aller chercher, à Ananias, liste alphabétique, qui devait être le premier sur la liste. Voilà, c'est moi qui le dis. Ananias, tiens, pof. Et puis, eh ben, qui va l'accueillir? Le premier sur la liste. Ananias, c'est extraordinaire. Et vous vous rappelez comment il l'accueille, Ananias? Il va dire « Saul, mon frère ». Waouh, Saul, mon frère. Hein, il avait peut-être encore toute la liste, mais c'était Saul, mon frère. Voilà, Saul, mon frère. Quel accueil, hein, de la part d'Ananias. Romains 15, 7 nous dit ceci. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Amen. Hein, voilà. « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Deuxième pensée dans les relations, dans les pratiques relationnelles, bénissez les persécuteurs. Honnêtement, moi je vais dire, peut-être que vous avez un vécu différent, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je n'ai jamais été persécuté. Oh, bien sûr, on s'est moqué de moi, on se moque de nous de temps en temps. Quand j'étais étudiant, on m'appelait le curé, etc. Voilà, bon. Mais, ouais, bon, c'est pas de la persécution. Bon, voilà, ok. Bon, on vous a appelé, je sais pas comment aussi, hein. Bon. Là, on parle de persécution. Et il y a peut-être des frères et sœurs qui ont été persécutés, qui sont persécutés encore aujourd'hui à cause de leur foi. Hein, dans leur famille, dans leur lieu de travail, on prie pour un frère actuellement qui est vraiment persécuté à cause de sa foi, etc. Et là, c'est vraiment de la persécution. Et moi, je me mets à la place de ce frère, bénissez ceux qui vous persécutent. Honnêtement, je pense que, et le seul exemple que j'ai, hein, c'est l'exemple d'Étienne et de Jésus, qui à la croix va dire, alors qu'il est cloué, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est-à-dire que ne leur impute pas ce péché. Seigneur, cette persécution de cet homme, de cette femme à mon égard, eh bien, je pardonne, afin que, eh bien, tu ne retiennes pas cette offense supplémentaire sur sa vie. Je l'interprète comme ça. Seigneur, voilà, moi j'efface ce péché. Je pardonne. Et la Bible nous dit que ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Et ça veut dire que pour Dieu, ce péché n'existe pas puisque je l'ai pardonné. Bon, il y en a certainement d'autres, hein, sur la vie de ce persécuteur et sur la mienne aussi. Mais pour celui-là, je le comprends comme ça, je bénis. Hein, je ne maudis pas. Et c'est quelque chose, je le répète, qui pour moi n'est jamais arrivé. Hein, bon, un jour on m'a maudit aussi. Bon, mais vu la personne qui l'a fait, on a plus de compassion qu'autre chose, que d'amertume et de haine par rapport à cette personne. Romains 12, 15 nous dit ceci ensuite, « Vivez en plein accord, hein, ayez un même sentiment les uns envers les autres, hein, soyez sensibles les uns envers les autres, Et je crois que j'avais mis un texte dans Philippiens, hein, Philippiens 2, verset 3, où il nous a rappelé ceci, « Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Hein, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Hein, » Et puis on s'était arrêté là.
Et puis, Romains 12, 17 à 21, c'est peut-être ici, pour les Romains, Paul va y assister un peu plus. Hein, et il semble que ce soit un défi qui nous touche tous, qui touchait en tout cas les chrétiens de Rome, dans des proportions plus ou moins importantes. C'est la vengeance. Je ne sais pas si vous connaissez la vengeance, hein, ou en tout cas l'idée de vengeance, mais Paul va terminer ainsi, il dit « Surtout, bien-aimé, ne vous vengez pas. » Et c'est là qu'il va apporter cette conclusion finale. Il va dire « Mais ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Quand on est éprouvé suite à des paroles qui ont été blessantes, un comportement qui nous a blessés, eh bien, on souffre. Et je ne sais pas comment vous faites, mais on va bien sûr chercher à soigner ces blessures, on va chercher à soigner cette souffrance. Alors, on va chercher des raisons, on va demander des explications, on va interroger le Seigneur, on va analyser, on va peut-être demander des excuses, exiger un pardon. Je ne sais pas comment vous réalisez, mais en tout cas, on va avoir une démarche parce qu'on est blessé, et parce que quand on est blessé, eh bien, on se soigne. Et alors, on prend ce chemin. Mais si tout ce qu'on a exigé, demandé, ou toutes les questions qu'on a posées ne nous satisfont pas, alors, il y a un mécanisme qui est en nous, qui est celui-ci. Ah, puisque cette personne m'a fait souffrir, eh bien, j'aimerais aussi qu'elle souffre. J'aimerais aussi que cette personne, passe par là où je suis passé. Alors, on le dit pas comme ça, on ne l'exprime pas peut-être comme ça, mais c'est un petit peu ça l'idée de la vengeance. Que la personne qui m'a fait souffrir, eh bien, elle en voit aussi un petit peu de toutes les couleurs. Et dans ce sens, eh bien, ce souhait, c'est un mécanisme qui est charnel, qui est naturel. Et c'est là que Paul dit, mes bien-aimés, ne vous vengez pas. Il dit, là, je vous ai donné Dieu vous donne des dons. Dieu vous donne un esprit nouveau. Dieu vous donne une pratique nouvelle. Eh bien, surmontez le mal par le bien. Ne vous vengez pas. Laissez Dieu agir dans le cœur de celui ou celle qui vous a blessé, dans le vôtre également, mais laissez-le agir. Et au lieu de nous concentrer sur cette souffrance, de nous apitoyer même parfois sur nous-mêmes, etc., eh bien, centrons-nous à nouveau sur le pardon, sur la grâce de Dieu, sur ce que Christ est venu accorder. Et Paul le dit à ses Romains, imaginez un petit peu, là aussi, ce que ces Romains qui sont persécutés, là je parle de véritables persécutions, eh bien, peuvent vivre. Et Paul va leur dire, eh bien, soyez vainqueurs, hein, ne vous laissez pas avilir par le mal, mais soyez vainqueurs, surmontez le mal par le bien. Et j'avais mis Éphésiens 4, 32, il me semble, et puis on va conclure. Et soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, c'est valable pour les croyants, mais c'est valable aussi pour les non-croyants. L'attitude que j'ai par rapport à un croyant doit être la même aussi que par rapport à un non-croyant. Alors, parfois pour les non-croyants, bon, ma démarche va se mettre devant un mur. Soyez en paix, hein, dans la mesure, bien sûr, que vous voulez être en paix, mais si en face ça résiste, vous avez fait votre démarche. Mais notre démarche spirituelle est la même envers les croyants comme envers les non-croyants. Alors pour conclure, j'ai juste relu quelques passages d'Apocalypse 2 et 3. C'est ces moments où, à la conclusion, Dieu dit, voilà, à celui qui sera vainqueur, je donnerai. À celui qui sera vainqueur, il sera avec moi, etc. Et j'ai trouvé quelques expressions pour nous encourager ce matin à vaincre le mal par le bien. Parce qu'on a reçu des dons nouveaux, parce qu'on a reçu un esprit nouveau, parce qu'on a reçu des pratiques nouvelles. Et voilà ce que il est dit dans Apocalypse, à celui qui sera vainqueur, hein, le Seigneur dit, bien, je donnerai, dit le Seigneur, à celui qui sera vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie. L'arbre de vie. Hein, c'est cette nourriture spirituelle, non seulement qui nous renouvelle ici-bas, mais qui dans l'éternité, eh bien, nous rappellera que nous sommes invités au festin du roi, nous mangerons à sa table, nous serons avec lui. C'est, je veux dire, c'est quelque chose qui nous dépasse. À celui qui va vaincre le mal par le bien, eh bien, je donnerai, dit le Seigneur, un nom nouveau. Un nom nouveau. Extraordinaire. Hein, nous avons reçu un nom nouveau. Dans le livre, dans le registre du ciel, hein, Dieu a écrit notre nom avec sa belle plume, une plume d'amour. Hein, je disais mardi que j'ai connu pendant 6 mois au CP la plume et l'encrier. Est-ce qu'il y en a qui l'ont connu ça? Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé? Moi, ça s'est très mal passé. Ah les tâches. Hein, j'ai vraiment été réjoui quand le stylo-bi est arrivé au CP. Hein. Mais en attendant, notre maîtresse, c'était une maîtresse, bien sûr, à l'ancienne, nous avait écrit un beau cahier du jour pour toute l'année, et avec sa belle plume, avait écrit notre nom, le cours, etc., l'année. C'était magnifique. On tournait la page, et on commençait à essayer d'écrire. Ah, moi, je devais avoir le stylo plume, celui qui coulait le plus. J'avais de l'encre qui devait couler le plus. Ça l'arrivait. Enfin, c'était terrible. À peine je faisais un truc, paf, il y avait une tache d'encre. Enfin, et la maîtresse, elle avait une technique extraordinaire. Hein. Elle s'embarrassait pas. Hein. Elle arrivait avec sa règle, hop, elle prenait la page et crac, et on recommençait. Et moi, mes cahiers ont diminué rapidement. Hein. Je vous prie de croire que on avait 2 ou 3 avec son encre, parce qu'il y avait des taches partout. Mais ce qui restait quand même, c'était la première page. Avec le nom nouveau, avec son nom à elle, avec notre nom à nous, ça c'était resté. Et c'est une image, bien sûr, pour nous, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ce matin, oui, même croyant, il y a encore de temps en temps des ratures dans notre livre avec Dieu. De temps en temps, il y a encore quelques taches d'encre, mais le nom nouveau, il reste. Amen. L'année de notre conversion, on va dire ça comme ça, elle reste. Même si de temps en temps, il faut que Dieu rectifie certaines choses, eh bien, le nom nouveau, il reste, hein. À celui qui est vainqueur, je donnerai autorité sur les nations. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Hein, je vous le confesse. Alors, dans le millénium, nous savons que nous régnerons avec Christ. Nous régnerons avec lui sur la terre pendant 1000 ans. Est-ce que c'est ça? Peut-être, je ne sais pas, mais il nous donnera de l'autorité sur les nations. C'est extraordinaire, ça. Hein. Il y en a qui régneront sur la Belgique. Hein, d'autres peut-être sur un État. Je ne sais pas, hein, mais bon... Et puis, l'étoile du matin, je vous donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin dans la Bible, c'est Jésus, c'est lui. Et nous régnerons avec lui dans sa présence, etc. À celui qui sera vainqueur, à celui qui vaincra le mal par le bien, eh bien, le Seigneur promet de donner. Amen, de donner. Alors que Dieu nous aide. Et puis, j'ai quand même noté ça, apprendre pour nous, pas pour le frère ou la sœur un tel. Peut-être que quelqu'un s'est dit, allez, je suis pas mauvaise langue, mais je vais le dire pour moi. Oh, mince. Oh, j'aurais aimé quand même que le frère un tel ou la sœur un tel soit là ce matin, hein, qu'il écoute ce sermon. Ça lui aurait fait du bien. Hein. Ben non. Ce sermon, ce matin, Didier, il est pour moi. Il est pour chacun d'entre nous. On va pas le prendre pour un tel ou une telle. Parce que si on fait comme ça, on n'a pas bien compris. Je le prends, Seigneur, pour moi. Je prends pour moi les dons nouveaux, je prends pour moi l'esprit nouveau, je prends pour moi les pratiques nouvelles. Et puis, ça, Seigneur, tu t'occupes de ce frère, cette sœur, et je le bénis et je la bénis. Amen. Et c'est ainsi que nous allons vaincre et que nous vaincrons le mal par le bien. Amen. Est-ce qu'on peut, ce matin, bien prendre la Sainte Cène de cette manière? Hein, on n'est peut-être pas très à l'aise, mais Seigneur, eh bien, je décide. Je suis renouvelé ce matin. C'est pas une parole de condamnation pour moi, au contraire. Seigneur, tu me rappelles que tu m'as donné des dons nouveaux, un esprit nouveau, des pratiques nouvelles. Eh bien, je te bénis et puis je veux avancer. Amen.